VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Raissa Girondin avec vous en direct de Washington pour Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30 en temps universel, la même heure à Dakar, Conakry et Abidjan. Bonsoir, voici les titres. En République démocratique du Congo, 9 personnes tuées dans une attaque attribuée à des miliciens Hutus dans l'est du pays. La Guinée paralysée, un appel à la ville morte de l'opposition, des enseignants et d'un puissant syndicat. Au Burkina Faso, ouverture demain du procès du putsch manqué de septembre 2015. À la barre, les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé.
Si des gens ont tué, qui a tué? Qui a donné l'ordre de tuer? Et si ces gens-là sont identifiés, ils doivent être sanctionnés. C'est pas nous qui mettons la pression sur la justice, contrairement à ce que vous pouvez penser.
Législative à Djibouti, le parti au pouvoir revendique une large victoire. L'opposition réagit.
C'est un show électoral que nous assistons aujourd'hui. Ce n'est plus une fraude, mais c'est un show électoral. Il n'est pas pour moi étonnant de voir de tels résultats.
Et aux États-Unis, Washington ne ferme pas la porte à un éventuel dialogue avec Pyongyang. Dans la Minute Éco, le Mali est redevenu le premier producteur de coton en Afrique devant le Burkina Faso. On découvrira les combinaisons du tour préliminaire des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, 9 personnes ont été tuées dans une attaque attribuée à des miliciens Hutus dans l'est du pays. Les précisions avec Dili Diko.
Dans l'attaque de Bualanda par des Maïmaï Nyatura, des miliciens Hutus, 4 civils ont trouvé la mort. 5 miliciens ont été tués lors de la riposte menée par l'armée congolaise, a déclaré Jeannot Makassi, responsable administratif local. Située dans la province du Nord Kivu, la localité de Bualanda est habitée par des ressortissants Hutu, Nandé et Hundé, 3 communautés qui s'affrontent régulièrement pour le contrôle des terres. Selon M. Makassi, l'attaque des miliciens Hutu s'est faite en représailles à l'incendie d'une centaine de cases du village Mutanda, peuplé majoritairement par des Hutus congolais. Les Hutus congolais accusent les Nandé et les Hundé de violer leur droit à la liberté d'installation. En 2017, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans la région lors de violences communautaires alimentées par des différents fonciers.
Et toujours en République démocratique du Congo, un bilan confirmé après les marches d'hier contre le régime. 2 personnes ont été tuées dimanche en marge des marches interdites anti-Kabila de catholiques, selon l'Épiscopat et les Nations Unies. La police, qui s'était félicitée la veille d'avoir atteint son objectif de 0 mort, a reconnu la mort de 2 personnes, dont, je cite, le fauteur de troubles Rossi Mukendi, des propos du colonel Rombo Pierrot Mwanamputu sur la radio onusienne Okapi. La mort de l'activiste congolais Rossi Mukendi a suscité aujourd'hui dans le pays une vague d'indignation. Mobilisation pour le lac Tchad. Les pays riverains se sont réunis en conférence à Abuja, organisée sur 3 jours par le gouvernement nigérian et l'UNESCO. La conférence se fait dans le but de lancer un projet de préservation de cette région dévastée par le changement climatique et les conflits. Le changement climatique aggravé par une très mauvaise gestion des ressources hydrauliques au fil des ans a conduit à la disparition de 90% de la surface du lac en 40 ans. Au Tchad, les poursuites judiciaires contre le directeur de publication d'un journal arrêté jeudi et le militant d'un mouvement citoyen arrêté le 19 février ont été abandonnées par le procureur de la République selon leurs avocats. Par ailleurs, les fonctionnaires tchadiens ont entamé une 5e semaine consécutive de grève pour obtenir le rétablissement du versement intégral de leur salaire. L'administration aujourd'hui tournait au ralenti et les établissements scolaires comme administratifs étaient fermés. À Djibouti, le parti du président Ismaël Omar Guelleh, en poste depuis 1999, a revendiqué une large victoire aux législatives de vendredi dernier, obtenant près de 90% des sièges lors d'un scrutin boycotté par une large partie de l'opposition. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Au Cameroun, un responsable administratif a été enlevé à Batibo, dans le nord-ouest anglophone du pays, où un sous-préfet avait été déjà kidnappé le 11 février dans la même zone. Cette annonce a été faite par les médias d'État. Au Nigeria, une semaine après la disparition de 110 élèves à la suite de l'attaque de leur école dans le nord-est du pays par des membres présumés du groupe Boko Haram, le président nigérian Muhammadu Buhari reconnaît qu'elles ont été enlevées. Cet enlèvement a ravivé la crainte d'un nouveau Chibok du nom de la ville de l'État voisin de Borno, où Boko Haram avait enlevé 276 élèves d'un internat en avril 2014, provoquant une vague d'indignation mondiale. En Guinée, des véhicules ont été caillassés et des pneus brûlés dans les rues de Conakry. La capitale guinéenne a été transformée en ville morte à l'appel des enseignants, d'un puissant syndicat et de l'opposition qui dénoncent des fraudes lors des récentes élections. Anastasie Tudiech.
D'une part, l'UFDG de l'opposant Seloud Alain Diallo avait appelé à faire de ce lundi une journée ville morte à Conakry pour protester contre, je cite, « la fraude à grande échelle organisée par le gouvernement » fin de citation, lors des élections locales du 4 février. D'autre part, des leaders syndicaux, non reconnus par l'État, réclament une augmentation des salaires des enseignants de 40% avec effet rétroactif et ont annoncé que la grève se poursuivrait malgré l'annonce samedi par le gouvernement d'une augmentation de 10% des salaires des enseignants. La grogne sociale s'est étendue avec l'appel de l'Union générale des travailleurs de Guinée qui dénonce entre autres une mauvaise gestion de la sécurité sociale ou la politisation de l'administration. Le puissant syndicat a appelé les travailleurs du secteur public, privé et informel à cesser le travail sur l'ensemble du pays, je cite, « jusqu'à la satisfaction de ses revendications ». Fin de citation.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a entamé une nouvelle tournée en Afrique qui doit le mener dans 4 pays, en Algérie, en Mauritanie, au Sénégal, puis au Mali. Le chef de l'État turc a qualifié d'historique cette visite en Afrique. Ankara s'efforce depuis plusieurs années d'accroître son influence sur le continent.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Grande-Bretagne, un immeuble a explosé dimanche dans le centre du pays. Les secours ont extrait un nouveau corps aujourd'hui des décombres de l'immeuble à Leicester, portant à 5 morts. Le bilan de ce sinistre à l'origine, pour l'instant, indéterminé. Conflit en Syrie, le président Vladimir Poutine a ordonné l'instauration à partir de demain d'une trêve humanitaire dans la Ghouta orientale. Claire Morin-Gibourg.
C'est le ministre russe de la Défense qui s'est exprimé par communiqué. Sur ordre du président russe et dans le but d'éviter les pertes parmi les civils de la Ghouta orientale, une trêve humanitaire quotidienne sera instaurée à partir du 27 février de 9h à 14h. Selon M. Shoigu, des couloirs humanitaires seront mis en place pour permettre l'évacuation des civils. Cette mesure intervient après l'adoption à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution réclamant sans délai un cessez-le-feu humanitaire d'un mois en Syrie. Plus de 550 civils ont été tués en 8 jours par les frappes du régime syrien sur la Ghouta orientale, ce fief rebelle près de Damas. Ce texte a nécessité plus de 15 jours de négociations pour obtenir l'assentiment de la Russie, alliée du régime de Bachar el-Assad.
Le président sud-coréen Moon Jae-in exhorte les États-Unis à abaisser leur niveau d'exigence pour des discussions avec Pyongyang. De son côté, le président Trump n'a pas fermé la porte au dialogue. Le point avec Lionel Gaïma.
Le rideau est tombé sous les Jeux Olympiques de Pyeongchang. Dans une offensive de charme, le leader nord-coréen Kim Jong-un a dépêché sa propre sœur à l'ouverture de jeux, puis le général Kim Yong-chol pour la clôture. D'après Séoul, le général qui a été reçu hier par le président sud-coréen Moon Jae-in a exprimé le souhait de Pyongyang de discuter avec les États-Unis. Le président sud-coréen a ajouté que les États-Unis doivent abaisser leur niveau d'exigence pour des discussions dès que possible. La réponse du président Donald Trump est que les États-Unis sont prêts à dialoguer, mais seulement si les conditions sont réunies. Nous avons été très durs avec eux, alors pour la première fois, ils veulent nous parler et on verra bien ce qui va se passer, a déclaré le président américain lors d'une rencontre avec les gouverneurs des États. Vendredi dernier, Washington a accentué les mesures de rétorsion contre Pyongyang. Le président Trump avait parlé des sanctions les plus lourdes jamais imposées à un pays.
En Chine, le Parti communiste chinois s'est prononcé pour la levée de la limite de 2 mandats présidentiels que dispose la Constitution. Après avoir dirigé le pays depuis 5 ans, Xi Jinping pourrait rester président de la République populaire autant qu'il le souhaitera. La presse internationale voit ressurgir dans cette décision l'ombre de Mao, leader suprême indétrônable. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Le Mali est redevenu le premier producteur de coton en Afrique devant le Burkina Faso. Sur la saison 2017-2018, la récolte a dépassé les 700 000 tonnes. La fixation d'un prix aux producteurs incitatifs et de l'approvisionnement en engrais et produits phytosanitaires ont favorisé cette dynamique. Le coton est la principale culture de rente plantée en rotation tous les 3 ans avec le maïs et le sorgho millet et cultivée sans irrigation. Le pays dispose de 3 millions de producteurs de coton et exploite 700 000 hectares. Le Mali a renoncé aux semences OGM pour éviter l'expérience malheureuse du Burkina Faso. Les recettes touristiques en île Maurice sont atteintes près de 2 milliards de dollars avec une hausse de 8% en 2017. En revanche, Maurice a accueilli moins de touristes que prévu. D'après les estimations des autorités, les arrivées de touristes sur l'île devraient atteindre 1,43 million en 2018. Aux États-Unis, la holding du milliardaire américain Warren Buffett tire profit de la récente réforme fiscale qui a fortement abaissé l'impôt des entreprises. Berkshire Hathaway a récupéré 29 milliards de dollars en 2017. Son bénéfice net a atteint près de 45 milliards. L'entreprise a augmenté son trésor avec 116 milliards en liquidités. Berkshire Hathaway détient des actions dans une quinzaine de grandes entreprises dont American Express, Apple, Bank of America, Coca-Cola, General Motors, Goldman Sachs et Southwest Airlines.
Et c'est la page sport avec la musique d'ambiance. Bonsoir Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir Aïssa et bonsoir à tous.
Alors, je le disais en titre, on connaît les combinaisons du tour préliminaire des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans, Yacouba.
Tout à fait, Raïssa. Il faudra passer par 3 tours pour certains, 2 pour d'autres, avant d'atteindre la phase finale de Niger 2019. Quelques affiches comme Gabon, Togo, Mauritanie, Maroc ou encore Algérie, Tunisie vaudront bien le détour. À suivre également Ouganda, Afrique du Sud et Tanzanie, RD Congo. Les matchs allés sont prévus les 30 et 31 mars et 1er avril, et les matchs retour 3 semaines après. À l'issue de ces éliminatoires, 8 pays seront qualifiés pour la phase finale au Niger pour succéder à la Zambie, actuelle tenante du titre.
Alors, 65 supporters arrêtés à Marrakech après des violences.
Oui, Raïssa, ces supporters ont été arrêtés et placés en garde à vue après des actes de vandalisme perpétrés dimanche soir au stade de Marrakech. Ces incidents qui ont fait 14 blessés parmi les forces de l'ordre se sont déroulés au cours du match perdu par le Kaoukab de Marrakech face au Raja de Casablanca. 3-0, plus de 2000 sièges ont été arrachés pendant le match. Peu avant le coup d'envoi, 5 supporters du Raja ont trouvé la mort dans un accident sur le chemin du stade, justement, d'après des médias locaux.
Marie-Josée Talou, ma jumelle en pleine forme à quelques jours des mondiaux d'athlétisme en salle 2018.
Et vous le dites avec un sourire, Aïssa. Votre jumelle, bien sûr, juste un des ressemblances de trait physique. Détrompez-vous, chers auditeurs, ce n'est pas sa vraie jumelle. La sprinteuse ivoirienne vient de signer une éclatante victoire sur 60 mètres à une semaine du début des championnats du monde en salle de Birmingham. La double vice-championne du monde sur 100 mètres et 200 mètres a brillamment remporté le 60 mètres du Grand Prix Indoor de Glasgow hier. Tammy, 7 secondes 07 centièmes. Marie-Josée Talou s'est imposée devant la double championne du monde de 200 mètres, la Britannique Dyna Asher-Smith. Prochain défi pour Talou, les mondiaux d'athlétisme en salle qui se tiendront du 1er au 4 mars prochain à Birmingham, justement, en Angleterre.
Et une nouvelle un peu plus triste, le boxeur britannique décédé à la suite d'un combat, Yacouba.
Scott Westgert est décédé hier, quelques heures seulement après avoir remporté un combat au Drôme de Doncaster en Angleterre, donc âgé de 31 ans. Il a été amené en urgence à l'hôpital après s'être effondré dans les vestiaires après sa victoire samedi contre Dirk Spellman, qui dit avoir le cœur brisé.
Merci beaucoup, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. C'est mardi que s'ouvre au Burkina Faso le procès du putsch et de la résistance populaire de septembre 2015. Un procès marathon qui va permettre d'auditionner plus de 80 témoins. La guerre des mots, elle, est déjà engagée entre les camps des défenseurs des accusés et celui de la partie civile à Ouagadougou, où nous retrouvons notre correspondant Issa Nippon.
Le match entre accusateurs et défenseurs du général Gilbert Nguéré et 83 autres accusés se joue depuis plusieurs jours dans les médias. Les organisations de défense des droits de l'homme attendent beaucoup de ce procès pour que les victimes se fassent entendre. Pour le président du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, ce procès doit être rigoureux et transparent afin de marquer la fin de l'impunité. Chris Gonzoumouré.
Le MBDHP rappelle que cette résistance populaire a fait 14 personnes tuées, essentiellement par les balles d'éléments de l'ex-régime de sécurité présidentielle, ainsi que de nombreux blessés, dont certains marqués à vie.
Devant la chambre de jugement du tribunal militaire de Ouagadougou, ce procès sera ouvert au public au palais des sports de la capitale. La justice et le droit sont les maîtres mots pour un procès qui ne doit oublier aucun des témoins pour un jugement équitable, estime Maître Prosper Farama, un des avocats de la partie civile.
Si des gens ont tué, qui a tué? Qui a donné l'ordre de tuer? Et si ces gens-là sont identifiés, ils doivent être sanctionnés. C'est pas nous qui mettons la pression sur la justice, contrairement à ce que vous pouvez penser. Pour ce procès-là, nous faisons aucune chasse à quelque sorcier que ce soit. Les victimes ne veulent pas de vengeance. Elles demandent la justice. Et ce que nous demandons, c'est que tout le monde, quelle que soit la personne, au degré où elle se trouve, qui soit impliquée dans cette affaire, soit entendue. Car à l'issue de ce procès, on n'a pas l'impression qu'il y ait de non-dits, qu'il y ait des choses cachées. Si des gens disent que certaines personnes sont impliquées, il faut les entendre. Les gens peuvent se réconcilier, c'est leur droit, mais ceux qui ont commis des crimes sont condamnés.
Les partisans des accusés, à coups de conférences de presse, crient à un procès politique. C'est le cas notamment du président de la nouvelle alliance du Faso Nafa, la formation politique du général Bassolé, également inculpé dans le dossier. Il y a manifestement ingérence du pouvoir, martèle le professeur Mamoudou Diko.
Au niveau de la Nafa, nous avons un souci pour notre leader, son ex-individu Bassolé, parce que tout simplement, il y a eu d'abord une question de justice qui n'a pas été bien exécutée à notre avis, parce que le juge lui avait donné une liberté provisoire et tout le monde a suivi ce qui s'en est suivi. Les gens ont refusé d'appliquer cette décision, a été embrigadé par le pouvoir NPP. Bon, c'est un arrêté que l'autre ministre a pris à posteriori, l'empêchant donc de juger de sa décision judiciaire. Nous sommes sceptiques par rapport à l'indépendance totale au niveau de la justice militaire. Nous devons croire que parmi eux, il y a des juges quand même qui vont privilégier l'intérêt supérieur de la nation.
83 témoins passeront donc à la barre pour éclairer l'opinion sur ce jour de septembre 2015 où le général Gilbert Nguéré prit brièvement les commandes du pays après un putsch soutenu par le régime de sécurité présidentielle et selon certaines sources par le général Djibril Bassolé et de nombreuses autres personnalités. Les accusés sont poursuivis notamment pour atteinte à la sûreté de l'État, trahison, meurtre et de coups et blessures volontaires. Issa Nippon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
À Djibouti, l'Union pour la majorité présidentielle, l'UMP, annonce avoir remporté 58 des 65 sièges des députés, soit trois fois de plus que lors du scrutin de 2013 à l'issue des législatives de vendredi. Une large victoire qui n'est pas une surprise pour le parti du président Ismaël Omar Guelleh, lui-même en poste depuis 1999, d'autant que le scrutin a été une nouvelle fois boycotté par une large partie de l'opposition. Pour une réaction, Jacques Aristide s'est entretenu avec l'opposant djiboutien Saïdou Sène Roblet, le président de l'Union pour la démocratie et la justice en exil à Bruxelles.
C'est un show électoral que nous assistons aujourd'hui. Ce n'est plus une fraude, mais c'est un show électoral. Il n'est pas pour moi étonnant de voir de tels résultats.
Mais l'opposition est-elle à blâmer également? Car contrairement au scrutin de 2013, elle est partie en ordre dispersé. L'USN, l'Union pour le salut national, n'est plus qu'un champ de ruines aujourd'hui, n'est-ce pas?
Non, l'opposition n'est pas à blâmer parce qu'elle, elle a appelé au boycott en 2016 et en 2018. Le problème, ce n'est pas l'opposition, mais ce sont les faux opposants.
Que voulez-vous dire exactement par faux opposants?
Les faux opposants, c'est ceux qui ont participé à l'élection présidentielle et ceux maintenant de législatif, ce n'est pas l'opposition USN ni les vrais opposants.
Vous, au niveau de l'UDJ, que réclamez-vous? Comment cette situation peut-elle changer éventuellement?
Cette situation peut changer, elle est arrivée pas seulement à l'UDJ, elle est arrivée à tous les partis de l'opposition où il existe pour chaque parti d'opposition un clone. Donc l'UDJ que vous voyez aujourd'hui, c'est un clone de l'UDJ, car la fille qui maintenant qui prétend présider l'UDJ ne représente pas l'UDJ, mais elle veut utiliser le nom de son père, qui est en réalité le vrai fondateur de l'UDJ. Donc elle n'est pas la vraie présidente de l'UDJ, et c'est un clone de l'UDJ. En réalité, il n'y aura pas d'élection au pays, ni d'alternance politique. Parce que nous avons des expériences électorales avec le terrain, avec la présidence d'Israël Barguemé, il n'y aura pas d'élection, ni d'alternance politique. Le changement viendra seulement par deux choses. Soit une révolution populaire, soit par la lutte armée. Parce qu'il n'y aura pas de changement avec Israël Barguemé, qui a montré toutes ses limites. Donc, à part ces deux options-là, il n'y aura pas. Je suis maintenant en exil. J'étais également député de l'opposition pour le parti UDJ, mais j'ai été fusillé au pays le 21 décembre 2015. Malgré que j'étais député, même j'ai été battu sur la place publique le 10 décembre 2015. Là, je viens de voir la liste de l'UMP au pouvoir contre la liste de l'opposition UDJ-PDD. Mais en vérité, l'UDJ-PDD, ce n'est pas un parti, mais c'est deux personnes, l'UDJ clone. Donc, pour ceux qui concernent l'UDJ et qui me concernent, cette fille-là ne représente ni l'UDJ, ni l'opposition. Donc, ça montre la preuve que c'est un show électoral. Ils prennent les deux casquettes, une casquette du parti au pouvoir et l'autre casquette de l'opposition. Ces pays, il n'y aura jamais des élections législatives.
L'opposant djiboutien Saïd Houssen Roblet, président du parti UDG, était en ligne de la capitale belge. Au Nigeria, les réactions au sein de la population ne se sont pas fait attendre après la déclaration du président Muhammadu Buhari. Déclaration selon laquelle son gouvernement va procéder à la vente de tous les biens volés non réclamés. L'administration Buhari a récupéré de nombreuses propriétés volées aux fonctionnaires corrompus au Nigeria et dans plusieurs autres pays depuis son arrivée au pouvoir en 2015. Alors, que pensent les activistes et les Nigérians ordinaires? Reportage de Gilbert Tamba, notre correspondant au Nigeria.
Attaquer la corruption au sein de l'administration était l'une des promesses majeures de campagne du président Muhammadu Buhari. L'agence anticorruption a procédé à des arrestations massives d'anciens responsables politiques soupçonnés d'avoir détourné des fonds publics. Certains anciens ministres, gouverneurs, directeurs d'agences fédérales encore en fonction font partie de la liste noire de l'IFCC, la Commission de lutte contre les délits financiers. Problème, nombreux parmi eux sont ceux qui demandent être les propriétaires des biens qui leur ont été attribués par les différentes agences de lutte contre la corruption suite aux enquêtes ouvertes il y a plusieurs mois. La décision du président nigérian de vendre ses biens et placer cet argent dans un compte du Trésor national est saluée mais suscite des interrogations dans le pays. Hidayat Hassan est la directrice du Centre pour la démocratie et le développement, un organe qui combat la corruption.
Les rapports de plusieurs cas n'ont pas été publiés jusqu'ici, parce que la volonté politique seulement ne suffit pas à combattre la corruption. Il faut aussi être transparent dans le processus. Il faut par exemple montrer le montant retracé et montrer le rapport de certains cas enquêtés.
D'autres veulent tout simplement que ces fonds soient directement investis dans le développement des infrastructures pour la création des emplois pour des milliers de jeunes Nigérians diplômés au chômage. Hamzat Laval est activiste et directeur exécutif de Code Connected Development.
Pour moi, cela n'a pas de sens pourquoi, après la vente, il va mettre ses fonds dans le compte de notre trésor national. Aujourd'hui, nous traversons une crise silencieuse. Nos infrastructures sont dans un état déplorable. Nous devons investir plus dans les infrastructures parce que vous ne pouvez pas recevoir un investissement international si vous n'avez pas d'infrastructure. Donc, je vais croire qu'il ne va pas placer ses fonds dans le compte du trésor national.
Tout comme ces activistes qui combattent la corruption, les populations ne cachent pas également dans leurs inquiétudes.
Depuis tout ce temps, ils donnent des promesses qu'ils vont annoncer et publier les noms des personnes impliquées et jusqu'ici, ils n'ont pas pu faire ça. Donc, si vous voulez faire quelque chose comme tel et vous voulez le faire dans le secret, cela peut aboutir à une chasse à l'homme et une sélection. Dans ce cas, la corruption qu'ils combattaient n'est pas une lutte totale.
Le Nigeria a retracé et récupéré avec succès 2,9 milliards de dollars entre mai 2015 et octobre 2017, selon la Commission des crimes économiques et financiers, IFCC. L'un des cas les plus célèbres est celui du colonel Sambo Dazuki, l'ancien conseiller national en sécurité de l'ancien président Goodluck Jonathan, accusé d'avoir détourné plus de 2 milliards de dollars. De l'argent voté pour l'achat d'armes destinées à la lutte contre l'insurrection de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
À New York, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSCA, Parfait Onanga Anyanga, a déclaré devant le Conseil de sécurité que la paix est en marche en Centrafrique. Une paix longue et ardue, selon lui, à cause de la réticence de quelques groupes à accepter la main tendue au dialogue offerte par le gouvernement. Félix Yepassi Sambrou a pu le joindre.
Absolument que je le confirme. La question centrale à laquelle nous sommes confrontés, et nous avons les statistiques pour le confirmer, c'est la question de la criminalité. Vous savez que ce sont eux-mêmes les commerçants qui sont venus trouver la MINUSCA en nous disant « trop c'est trop ». Alors qu'au début, ces groupes s'étaient affublés le titre de groupe d'autodéfense parce qu'on sortait à peine de la crise et qu'il y avait peut-être un besoin, c'est vrai, pour les communautés, en l'absence de l'autorité de l'État, de s'auto-protéger. Aujourd'hui, ces groupes armés sont devenus des organisations criminelles et qui taxent les commerçants du kilomètre 5, sont devenus donc un vrai problème de société dont il faut, dès que possible, se débarrasser. Cela ne veut pas dire que la paix n'est pas en marche en Centrafrique. Cela ne veut pas dire que les choses sont simples ailleurs. Au contraire, nous faisons face encore à d'énormes difficultés. Et c'est bien pour ça aussi que le Conseil de sécurité a consenti à accroître les capacités de la MINUSCA. Et c'est bien pour ça également que nous sommes nous-mêmes avec le gouvernement à pied d'œuvre, avec l'Union européenne et d'autres, à renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité centrafricaines.
Hormis la situation à Bangui, dans l'arrêt pays, cette paix, vous parlez, elle est longue et ardue en Centrafrique.
Le fait est clair. Aujourd'hui, il y a un processus de restauration de l'autorité de l'État. Nous travaillons dans le domaine de la sécurité, nous travaillons dans le domaine de la justice et nous avons également le processus de paix qui est en train d'être mis en œuvre. L'État a été absent pendant longtemps dans trop de parties du pays. La nature n'est même pas le vide. Des groupes armés se sont établis, non seulement ils causent tant de tort à la population civile, mais beaucoup d'entre eux sont investis dans une prédation qui ne sera pas facile à réduire. Donneront le temps que ça prendra, mais il est clair que le train de la paix en Centrafrique, je le dis encore une fois, est en marche.
L'opinion centrafricaine a toujours indexé la MINUSCA pour sa passivité devant les violences des groupes armés sur la population civile.
J'ai toujours dit que je comprenais la frustration des populations civiles centrafricaines. Aucune population, dans quelque pays que ce soit, ne peut accepter de vivre pendant longtemps sous la menace et la violence. Je suis le premier choqué par les crimes horribles commis par les groupes armés, par les violations massives des droits de l'homme dont ils sont responsables. Moi, je comprends la frustration des populations centrafricaines qui auraient souhaité que nous mettions fin à toutes ces violences rapidement. Mais la nature de la tâche est immense. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle, mais il nous faudra redoubler d'efforts. Nous sommes absolument à cheval sur des questions de performance, progressivement. J'appelle ici à la patience. Nous allons utiliser tous les moyens, nous allons utiliser la force à bon escient, comme nous l'avons fait à Power récemment, comme nous l'avons fait à Bambari l'année dernière, à Bokaranga, à Bam. Nous continuerons à utiliser la force toutes les fois que des organisations criminelles ou des groupes armés attenteront comme ça à la vie de paisibles citoyens centrafricains.
Et ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Lionel Gaïma, mise en onde, Alfredo Santos à la console, Raissa Gironda à la présentation. On reste connecté sur Facebook et notre site internet voaafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programmes.